marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ?
Sully et sa fortune posthume. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Pour Maximilien de Béthune, duc de Sully, commence une longue carrière de fidèle serviteur. Après avoir combattu aux côtés d'Henri de Navarre, il est récompensé de ses efforts par celui qui est devenu roi de France. Il va être successivement nommé conseiller d'État, gouverneur de Mantes, surintendant des finances, grand voyer de France, surintendant des fortifications, capitaine du château de la Bastille, conseiller d'honneur au Parlement de Paris et surintendant des bâtiments royaux. Une telle accumulation de charges fait de Sully un homme tout puissant et un travailleur infatigable. Frédéric Gersal, on finira avec Stéphane Bern. Il disait, Sully, j'ai un emploi quasi général dans toutes sortes d'affaires et grande créance et absolue confidence dans l'esprit du roi. Son rôle n'était pas étendu jusqu'au domaine international, comme le fut celui de Richelieu ou de Mazarin. Il inaugura néanmoins ses duos souverain-ministre qui fonctionnèrent si souvent au long du XVIIe siècle. La comparaison répétée entre Sully et Colbert est devenue un lieu commun de l'histoire de France. Sully est resté en poste moins longtemps que Colbert, une douzaine d'années, entre l'assassinat d'Henri IV, sa disgrâce qui suivit et sa mort en 1641, s'écoulèrent 30 ans d'effacement. Et le souvenir de Sully n'a survécu à l'oubli que parce qu'il s'est façonné lui-même une statue. L'énorme volume des mémoires qu'il rédigea dans sa retraite, Les sages économies royales, ressemble à un magma confus, mais il sera réécrit élégamment plus tard et il contient cette pépite. Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée. Et l'équivalent, ajoute-t-il, des mines d'or du Pérou pour l'Espagne. Cette fameuse maxime a été connue de tous les élèves, ceux des écoles républicaines, mais aussi bien ceux des écoles catholiques, ce qui est un prodige pour un huguenot. Rien qu'à Paris, son nom est attribué à son ancien hôtel, à un pont sur la Seine, une porte du Louvre, un pavillon de Bercy, et on ne citera pas les restaurants. Son supposé désintéressement a fait beaucoup pour cette fortune posthume. Il est vrai qu'au service du roi, il n'a fait que multiplier par 8 ses revenus. L'enrichissement de Colbert a pris d'autres proportions. Colbert, dont l'anniversaire de la naissance en 2019 sera sans doute glissé sous le tapis pour de multiples raisons. Sully, lui, reste un astre, certes un peu déclinant, mais qui verdit les prairies et mûrit les blés.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Gérard Vint, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Alors c'est une tradition de recevoir l'historien du magazine Alternative Économique. Dans le numéro de ce mois-ci, il y a un gros dossier sur les rébellions populaires. Sully les craignait beaucoup. Et l'article que vous consacrez à Sully. On citera aussi, parce que en note, vous lui rendez hommage, le grand rénovateur de l'histoire de Sully, en la personne de...
Oui,
Bernard
c'est
Barbiche.
Bernard Barbiche qui a fait, je dirais, la somme avec Ségolène de Dainville Barbiche, d'ailleurs, hein, puisque ça a été réédité
récemment enrichi chez Fayard.
Chez Fayard en 97.
Bon, alors on a posé le bagage de l'hommage. Il a commencé sa carrière comme combattant. Hein. C'est un noble d'épée. Il est très cultivé par ailleurs, mais il vient d'une famille de nobles d'épée.
Absolument, absolument. Et donc lui-même a combattu à plusieurs reprises aux côtés de Henri IV. Henri IV qui d'ailleurs lui-même était un des derniers rois combattants à la tête de ses armées.
4 fois blessé. Au service du roi qu'il a connu, jeune souverain de Navarre, c'est son père qui avait confié sa destinée au jeune roi.
Maximilien, j'ai essayé de vous enrichir des vertus par le moyen desquelles j'espère que vous ferez un jour quelque chose. Préparez-vous donc à supporter avec courage toutes ces difficultés que vous rencontrerez dans le monde et en les surmontant généreusement, acquérez-vous l'estime des gens d'honneur, particulièrement du maître à qui je veux vous donner et au service duquel je vous commande de vivre et mourir.
Retour aux fondamentaux aujourd'hui et utilisation, vous le permettez Gérard Wint, de tous les clichés. Si on fait le parallèle avec Colbert, lui c'était pas un homme d'épée.
Non, absolument. Lui, c'était quelqu'un qui était un Robin, en quelque sorte. Hein, non, là, Sully est vraiment un noble d'un assez bon rang. Hein. On l'appelait Ronny parce que c'était la propriété d'origine. Et puis aussi de Béthune, Maximilien de Béthune. C'est plus tard seulement qu'il achètera le château qui porte son nom sur la Loire.
Lieutenant d'Henri IV, blessé 4 fois, il entre dans le premier cercle gouvernemental quand Henri IV conquiert son royaume et devient un ministre qui acquiert de plus en plus d'importance, un surintendant des finances. On va revenir, je le crains, plusieurs fois sur la fameuse maxime, mais il y a un versant de la maxime qu'on ignore le plus souvent et qui fait référence aux mines d'or et aux trésors du Pérou qu'ont les Espagnols. Un surintendant des finances, ça s'occupe d'abord de l'or et de la monnaie.
Absolument. Donc cette phrase, elle est tout à fait intéressante, on pourrait en faire des kilomètres dessus, hein, puisque finalement Sully y vante la production agricole et non pas une rente. Hein, que serait l'or et l'argent. Mais pour revenir à la monnaie, alors effectivement, une des tâches principales, une des préoccupations principales de Sully, surtout au début, c'est que la monnaie soit stable. Et pour qu'elle soit stable, il faut qu'elle soit frappée dans des métaux précieux, qu'il n'y ait pas des manipulations monétaires comme cela a été souvent le cas. Donc c'est vraiment un attachement très fort à cette monnaie stable. Il faut qu'il y ait une bonne monnaie.
Mais est-ce qu'à l'époque, on considère le stock d'or et d'argent comme illimité? Le stock monétaire donc disponible ne bougerait pas? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait face aux monnaies étrangères qui entrent?
En fait, quand même, il bouge, ne serait-ce que parce que, je dirais, la couronne espagnole, qui est une rivale quand elle n'est pas une ennemie, dispose quand même de mines d'or et d'argent de ses possessions en Amérique. D'ailleurs, Sully cherche il a même tenté en 1603 de trouver de l'or et de l'argent en France, ce qui est assez étonnant. Et ce trésor n'est pas dans les caves de la Banque de France qui n'existe pas, mais est à la Bastille.
Dans et la Bastille dont il est le capitaine pendant une grande partie de sa vie. Alors, vous vous souvenez du slogan on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On n'a pas d'or et on n'a pas d'argent, mais on a labourage et pâturage. Le soin du paysan, quelle raison explique le choix prioritaire que fait Sully dans ce domaine?
Le soin du paysan, c'est d'abord que, à l'époque, de fait, toute la richesse, pratiquement, vient de la terre. Il faut penser que le pays a 18 millions d'habitants, dont 80% sont des paysans. Que les revenus des nobles, et le sien propre d'ailleurs, vient des paysans. Que l'impôt, la taille, est assise sur le travail des paysans. Et donc, il y a aussi comme raison le fait que le paysan, il faut le tenir en laisse, et il faut qu'il reconnaisse le pouvoir. Hein. On sait qu'il y a des révoltes. Hein, vous avez fait une allusion tout à l'heure aux révoltes.
Française, oui.
Oui, il y a des révoltes dans la paysannerie française depuis longtemps. Et d'ailleurs, Henri IV en subit une en 1594-1595. Et donc, parce qu'il y avait une menace d'augmentation des impôts. Et d'ailleurs, il va à la fois réprimer cette révolte dans le Limousin et revenir sur la hausse des impôts.
Et le roi n'est l'image de Dieu dans l'esprit de Sully que s'il accorde à ses sujets repos et tranquillité et qu'il ne les pressure pas par des exactions. 1595, des révoltes. 1599... Vous signalez ça dans votre papier d'alternative économique par priorité, la politique d'assèchement des marais, soin de la terre aussi.
Oui, alors absolument, je veux dire, ce n'est pas simplement un vague slogan, hein, c'est aussi des réalisations, hein, essayer d'étendre les terres cultivées, notamment par l'assèchement des marais, qui est un vrai problème. Il y a une politique d'assèchement de l'Aunis, de la Limagne, du Poitou, de l'estuaire de la Seine. Voilà.
Mais qui des deux a dit il faut la poule au pot tous les dimanches pour mes bons paysans. Parce qu'il faut qu'on entende maintenant encore un cliché, un téléfilm de Pascal Salamin et Georges Wodzicki, le duo du roi et de son ministre.
Surintendant des finances, monsieur de Sully.
Sire, nous avons à vous entretenir de choses pressantes et graves.
Quand donc sont-elles légères et peu pressantes?
Sire, le pays est exsangue. Nos paysans souffrent. Les impôts n'entrent plus, les caisses sont vides, la dette de l'État est énorme.
Que voulez-vous que je réduise mon train de vie alors que ma maison vit déjà sur un petit pied et qu'à la place de deux chapons, il n'y en a plus qu'un? La marmite du roi doit bouillir comme celle des autres. Vous savez que Ronchelet en particulier contre tous mes travaux d'embellissement de Paris.
Oh, l'agrandissement du Louvre, l'achèvement du Pont Neuf et de la façade de l'Hôtel de Ville, la construction de la place royale, de la place Dauphine, la rénovation du Marais, c'est beaucoup, sire.
Sully, vous n'êtes pas sensible à la beauté. Vous n'êtes sensible à rien, sauf au bétail peut-être. Mais une belle vache au pied gonflé vous est plus chère que la plus belle des courtisanes.
Mais c'est qu'une vache rapporte plus à la France, sire.
Mais qui dit quoi? On ne sait plus très bien. Le reproche, par exemple, l'aménagement des quartiers de Paris, là, il semble être fait par Henri IV à Sully, parce que Sully dépensait en matière d'urbanisme aussi.
Ah, absolument. D'abord, il est chargé directement de cet embellissement, ça fait partie de ses attributions et il n'a pas de récrimination particulière là-dessus. Ça, cette image de Sully, le campagnard, le rural, qui s'intéresse qu'à ça, qui s'intéresse pas aux villes, c'est franchement un cliché.
Et le plus vieux des deux, c'est qui? C'est Sully, bien sûr, avec sa barbe blanche.
Absolument pas. C'est ça. On nous montre un Henri IV égrillard, éternellement jeune. Il a, autant je me souviens, 50 plus que Sully.
Alors, on revient au duo, au thème des duos. Alors, Henri IV, Sully, Louis XIII, Richelieu, Anne d'Autriche, Mazarin, Louis XIV, Colbert. Alors, Colbert, selon les clichés de l'école, il a une politique radicalement différente de Sully. Le voici qui explique à son fils que la vieille maxime qu'on cherche à illustrer aujourd'hui, elle est passée de mode sous Louis XIV.
Bonjour, monsieur mon fils.
Bonjour, mon papa.
Bonjour.
Ah, mon ami, pour ces marmousets, il faut produire. Notre indépendance, et la leur plus tard, est à ce prix.
Oui, les deux mamelles de la France...
Non, labourage et pâturage ne suffisent point. Il nous faut un grand commerce, une grande marine, une grande industrie.
Non, l'industrie est un mal. Elle engendre le luxe et le luxe engendre l'amollissement.
Non, je ne veux plus accepter l'aide des pays étrangers, nous aurons notre industrie. Regarde ces jardins. Eh bien, ils vont changer, nous allons planter ici des dizaines, des centaines de mûriers. Comme partout en France, non seulement ils donnent la soie...
Mais encore, leur écorce donne de la toile.
Pilotage des manufactures, l'industrie de la soie, ça c'est Colbert.
Eh bien, c'est déjà Sully. C'est ça qui était étonnant, à quel point on a fini par, intégrer cette idée. En fait, d'abord, Sully va faire de la publicité à un ouvrage d'Olivier de Serres, et en particulier sur ce qu'il a écrit sur la bonne culture des mûriers. Et d'autre part, il va être chargé de la mise en place d'une manufacture de soie près de la place royale. Alors ça a été promu au départ par un autre, par la FEMAS, mais lui-même n'a rien, absolument rien contre cela. De même qu'en 1604, autant que je me souvienne, il crée une compagnie des Indes. Donc on retrouve finalement aussi, il n'était pas anti-industrialiste, simplement il a plus fait pour l'agriculture, oui, on peut le dire.
La politique maritime intéressait plus Colbert. Mais Colbert, c'était un théoricien, tandis que Sully, ce n'est qu'un pragmatique.
On n'a pas vraiment trouvé de théorisation chez Colbert. Je crois que les deux étaient des pragmatiques et avaient finalement les deux envie d'accumuler de l'or et de l'argent dans les caisses de leur roi.
Le mercantilisme.
Oui, finalement, si le mercantilisme est attaché à la personne de Colbert, un mercantilisme à la française que Colbert a poussé certainement plus loin que Sully, mais c'est déjà en germe dans la politique économique, si on peut parler de politique économique, tout du moins dans les pratiques économiques de Sully.
Enfin, sous Louis XIV, le personnage de Sully est quand même mis en veilleuse, ne serait-ce que parce qu'il était huguenot. Un autre monde s'est ouvert, celui de Versailles. Cliché, Lully, musique de divertissement. Anti-cliché, savez-vous que Sully dansait beaucoup mieux qu'il ne montait à cheval et que tous les soirs, dans sa demeure de l'Arsenal, qui n'avait pas la splendeur de Versailles, il donnait lui aussi des soirées divertissantes.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Sully aujourd'hui avec Gérard Vint. Sully et sa fortune posthume, parce que le papier que vous consacrez dans Alternative économique à Sully est centré sur ce thème. Oubli relatif de Sully sous Louis XIV. Et quand on arrive peu à peu vers le milieu du XVIIIe siècle, voilà que le personnage rebondit.
Oui, ceux qui vont surtout le faire rebondir, ce sont ceux qu'on va appeler les physiocrates, ceux de les économistes. On les traitait même d'une secte d'économistes, à la tête de laquelle il y avait François Quesnay. Mais il y avait aussi Mirabeau père, et il y avait aussi Dupont de Nemours et quelques autres.
Qu'est-ce qu'ils disaient alors les physiocrates?
Et ces gens-là ont puisé dans Sully finalement son attachement à l'agriculture, parce que le grand credo économique des physiocrates, c'est que toute la richesse provient de la terre. Et dans le tableau économique de Quesnay, il fait un tableau un peu compliqué. Finalement, toute la richesse produite, la richesse de la nation, c'est le produit de la terre. Le reste n'étant finalement que, notamment l'artisanat, l'industrie, n'étant que, je dirais, des richesses additionnelles, hein, complémentaires.
Les physiocrates, ils ont pignon sur rue dans l'encyclopédie.
Ils ont absolument pignon sur rue. François Quesnay écrit plusieurs articles dans l'article Grain de l'encyclopédie. Quesnay écrit à propos de Sully, « Ce grand ministre ne désirait pour procurer des revenus du roi et au roi et à la nation, et pour soutenir les forces de l'État, que des laboureurs, des vignerons et des bergers. »
Et un peu plus tard, la critique du colbertisme va accompagner la valorisation du sullisme. Enfin, on ne va pas dire sullisme, parce que c'est un pragmatique. Avez-vous expliqué Condorcet, par exemple, il va beaucoup critiquer Colbert.
Absolument. Bon, Condorcet, donc qui a des sympathies, je dirais, pour d'abord pour la paysannerie et le peuple français, et donc à travers cela pour les physiocrates, critique beaucoup Colbert, en qui qu'il caricature un petit peu aussi, hein, mais en qui il voit vraiment quelqu'un qui n'est préoccupé que d'industrie et qui a un certain mépris pour le peuple.
À la veille de la Révolution française, on est à la recherche pour le roi Louis XVI, qu'il est difficile d'assimiler longtemps à Henri IV, de bons conseillers. Et Sully, c'est le thème du bon conseiller qu'il porte.
Absolument, c'est le bon conseiller et l'ami. Hein, c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans les autres duos. Hein. Le conseiller, l'ami, ce qui permet d'ailleurs à Sully et Henri IV de s'engueuler quand même assez souvent.
Mais ils se sont engueulés.
Ah, souvent, oui. Mais Sully était visiblement quelqu'un d'un caractère très affirmé, qui disait souvent ce qu'il pensait, qui se retirait dans ses terres pour bouder quand il n'avait pas satisfaction. Mais il y avait une fraternité d'armes, sans doute, hein, très fort entre ces deux guerriers, et en même temps une amitié, même s'ils étaient fort dissemblables.
On continue avec vous à parcourir le chemin de la fortune posthume de Sully. Alors, Restauration, Louis XVIII veut ressembler à Henri IV. Sur le pont Neuf, il établit la statue d'Henri IV et Sully va remonter en grâce. Mais ce que vous observez, c'est la continuité dans les manuels scolaires dans l'enseignement du personnage consensuel qu'il représente.
Oui, d'ailleurs, si on est là aujourd'hui pour parler de ça, c'est sans doute largement grâce à l'école de Jules Ferry qui fait que la phrase de Sully
que vous n'avez pas rappelé depuis longtemps.
Voilà, labourage et pâturage, très exactement, sont les deux mamelles dont la France est alimentée, les vraies mines et trésors du Pérou. Mais on l'a retenu dans la version courte. Cette phrase est restée dans les mémoires et donc c'est réutilisé fortement dans l'école de la Troisième République, mais je dirais plus largement dans l'école primaire à l'époque, qu'elle soit catholique ou laïque.
Oui, alors ça c'est curieux, parce que voilà un homme qui est resté huguenot jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il avait conseillé à Henri IV de se convertir au catholicisme au nom de la nécessité de l'unité du pays. Il a été sollicité 1000 fois de se convertir lui-même, il ne l'a pas fait.
Oui, il est resté très ferme hein, sur ses convictions religieuses. Alors, c'est l'école, disons que bon, si on prend l'école religieuse, elle partage finalement avec l'école laïque des valeurs morales. D'abord, la paix. On présente Henri IV et Sully comme des hommes de paix. Hein, comme veut se présenter d'ailleurs la Troisième République à l'époque. Il y a l'amour du travail, le goût de l'épargne. Qui plaît beaucoup à la bourgeoisie de l'époque, à une bourgeoisie rentière, l'honnêteté dans la gestion, une prétendue modestie. Et donc, tout cela se retrouve aussi bien dans des manuels chez les catholiques que chez les laïcs. Les laïcs les plus militants, évidemment, ils mettent l'accent hein, sur le fait que Sully est un huguenot était pour la tolérance religieuse.
On ne dira pas, pour ne pas froisser le roman national, que Noble d'épée, assez passionné par l'armée, voulant peut-être faire briller les beaux canons qu'il avait réussi à construire, Sully était à la fin de la vie de Henri IV, plutôt partisan d'une guerre. L'assassinat de Henri IV en 1610 s'est fait, on l'a complètement oublié, sur fond de guerre à venir. À propos de guerre, les guerres peuvent être suivies de défaites. Le grand moment, involontaire, de la fortune de Sully posthume, c'est peut-être 1941. Donc nous sommes maintenant dans l'État français. C'est le 3e centenaire de sa mort. Vous prendrez bien un petit peu de Radio Vichy, le ministre de l'Agriculture du Maréchal.
Français, aux heures les plus sombres de son histoire, la France a toujours trouvé des hommes pour la servir et la relever. Nous célébrons aujourd'hui le 3e centenaire de la mort de l'un des plus illustres d'entre eux, Sully. Sully est l'incarnation même des qualités du terroir dont il est issu. Il connaît bien et il pratique lui-même ces vertus de la paysannerie française qui, face à la mauvaise fortune, en dépit du gel et de l'orage qui ruine en un jour l'espoir d'une année, redresse son dos courbé sous le désastre et avec calme, se reprend à labourer et à semer. Sully n'a pas imaginé de moyens sensationnels. Il s'est simplement fié à son bon sens terrien et aux traditions ancestrales. Il s'est tout d'abord attaché à équilibrer les dépenses et les recettes. Il fallait trancher dans le vif, et pour cela la volonté de fer du vieux soldat était nécessaire. Non seulement l'ordre fut remis partout, mais pendant les 10 dernières années du règne d'Henri IV, Sully put épargner annuellement 1 000 000 de livres soigneusement amassés dans les caves de la Bastille.
Pierre Casio, 1941. Gérard Wint.
Oui, alors cet homme a été ministre de l'Agriculture sous Pétain et on pourrait reprendre presque mot à mot et commenter. Dans le panégyrique, la louange à Sully, il y a plusieurs choses. Il y a ce vieux soldat, hein, la France, vieux soldat, qui a apporté la paix, hein, comme le maréchal. Maintenant, en ce qui concerne la phrase elle-même et son attachement donc au labourage ou au pâturage, en fait, c'est la terre qui ne ment pas. Hein. La paysannerie représentant les racines profondes du peuple français, le travail, la famille et la patrie. Et donc, c'est ça qui est louangé. D'ailleurs, il y a une des principales biographies de Sully avant, évidemment, Barbiche. C'est une biographie d'un romancier, Henri Pourrat, qui était un romancier régionaliste, que peut-être certaines familles encore ont dans leur rayon.
Moi, je dirais que c'est un romancier du Massif Central, et que le Massif Central, c'est pas rien. Mais chacun a son interprétation, oui.
Oui, tout à fait, tout à fait. Il aurait pu être au salon du livre de Brive. Mais donc, c'était un maréchaliste, hein, très attaché donc à Pétain. Il publie en 42 hein, Sully et sa grande passion.
Pétain jouait un mauvais tour au fond à Sully, comme à plein d'autres, à Peggy et à tant de grands hommes de l'histoire de France. Je voulais qu'on finisse sur une certaine éclipse quand même de Sully. La preuve, ce qu'en dit Stéphane Bern. Alors il y a des professeurs d'histoire qui ont créé sur Twitter un bingo de Stéphane Bern pour repérer dans ses émissions tout ce qui relève du cliché prévisible. Eh ben, moi je m'inscris en faux, moi je ne pensais pas que Stéphane Bern trouvait à ce point Sully antipathique.
C'était un homme qui était extrêmement intelligent, qui a redressé évidemment les finances du royaume, mais il était caractériel, arrogant, autoritaire, pas très sympathique, il faut bien le dire, et surtout terriblement avare. J'aimerais maintenant vous montrer la salle du trésor de Sully, qui est cachée derrière cette porte dérobée que vous voyez ici. Et quand je l'ouvre, que trouve-t-on ? Une porte blindée du début du XVIIe siècle. C'est là derrière que Sully, eh bien, mettait son or, son argent, ses pierres précieuses, par centaines sans doute, et puis aussi ses titres de propriété. Et puis enfin, eh bien, sa salle des coffres. On raconte que Sully avait caché son trésor dans le château. Alors la dernière des Béthune Sully, dans les années 60, a fait sonder tous les murs pour essayer de trouver ce fameux trésor. Elle ne l'a jamais trouvé. En revanche, elle s'est ruinée pour le chercher, et elle a été contrainte ensuite de vendre le château au département.
Je n'assure pas que la dernière des Béthune Sully ait eu ce comportement. Elle a vendu le château en effet en 62. Bon, mais ça, c'est la tâche des animateurs du bingo de Stéphane Bern de dire si c'est complètement exact ou légèrement faux. Mais Sully avare, son trésor, mais Sully, enfin Gérard Vint, il est désintéressé.
Alors Sully n'est pas désintéressé. On a aussi tracé ce portrait d'un homme d'abord très intègre, austère, éventuellement avare. En fait, comme vous l'avez dit, je crois, au début, il a multiplié sa fortune sous Henri
IV. C'est revenu par 8 pendant le règne d'Henri IV, mais après, quand il a été mis à la retraite, et ben, il a doublé son capital.
Ah oui, il est très attaché à ses intérêts. Par exemple, au début de ses relations avec Henri IV, Henri IV lui refuse un certain nombre de postes qu'il convoite. Et Henri IV, en échange, lui verse des émoluments importants. Et avec ça, il va acheter des terres, etc. Donc il va passer son temps quand même à accumuler des propriétés.
Vous conviendrez que par rapport à Colbert et à la famille de Colbert, c'est peu de choses. Et puis c'est une fortune essentiellement foncière à 80%, ce qui n'est pas le cas de la fortune de Colbert. Juste un mot, Stéphane Bern trouve qu'il est vieux jeu. Et vous concluez votre papier d'alternative économique. C'est très alternative économique comme conclusion. Il aurait presque inventé le circuit court en agriculture. Vous y allez un peu fort quand même.
Oui, non, c'est un petit clin d'œil en disant que là, sa phrase a complètement disparu du paysage politique. Enfin, je n'aurais trouvé qu'une trace, moi, un jour. Comment il s'appelle
François Bayrou.
François Bayrou, voilà.
Un Béarnais, peut-être.
Un Béarnais, François Bayrou, qui avait fait un petit discours. Il disait que l'éducation et la formation étaient le pâturage et le labourage de la France. Non, ça avait disparu. Mais peut-être que Sully connaîtra une nouvelle fortune avec l'intérêt renouvelé pour la production locale.
À proximité. C'est entendu. Alternative économique, votre papier sur Sully. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Johanna Gabric à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation.